VOA Afrique, les infos à Washington.
Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouédraogo avec vous pour ce bulletin d'information. Il est 17h à Washington, 21h en temps universel, 22h à Kinshasa, dans la capitale congolaise RDC. L'ex-chef de guerre Jean-Pierre Bemba va faire son retour à Kinshasa le 1er août. L'annonce a été faite par son parti qu'il a déjà investi candidat à la présidentielle du 23 décembre après son acquittement par la Cour pénale internationale. M. Bemba, qui se trouve actuellement en Belgique, a été acquitté et remis en liberté provisoire sur décision donc du jury d'appel de la CPI en juin. Il avait été condamné en 2016 à 18 ans de prison pour des exactions commises par sa milice en Centrafrique au début des années 2000. Début juillet, un procureur de la CPI a demandé un maximum de 5 ans de prison dans une affaire annexe de subornation de témoins. Ses avocats plaident la relaxe. La CPI n'a donné aucune date pour l'annonce du verdict. Le processus électoral en RDC entre dans une phase décisive avec le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle à partir de mercredi, demain donc, ce mercredi disons, jusqu'au 8 août. RDC toujours, l'opposition a déclaré qu'elle ne boycotterait pas les élections prévues le 23 décembre, mais a répété qu'elle exige des préalables à commencer par le retrait du président Kabila à 2 jours de l'ouverture du dépôt des candidatures. Ces élections doivent se faire sans la machine à voter, sans la candidature du président Joseph Kabila et sans les 10 millions d'électeurs sans empreinte digitale inscrits sur les listes électorales, a soutenu Eve Bazaïba, porte-parole du candidat Jean-Pierre Bemba. Au Soudan du Sud, des gens furieux de n'avoir pas été engagés par des organisations humanitaires ont attaqué et pillé les locaux d'une dizaine d'entre elles, d'après le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés HCR. 2 employés de l'agence ont été blessés dans les incidents lorsque des manifestants ont pénétré de force dans l'enceinte du HCR et ont pillé les bureaux et résidences dans le comté de Maban, dans le nord-ouest du pays, selon donc le communiqué de l'agence onusienne. En Guinée, la police a empêché à Conakry 2 marches distinctes organisées pour réclamer l'annulation de la hausse de 25% du prix du carburant. Au moins 6 manifestants ont été arrêtés. L'interdiction des 2 marches, à l'appel respectivement de la société civile et des syndicats, a été annoncée dimanche soir par le gouverneur de Conakry, Mathurin Bangoura. Il a justifié la mesure par la nécessité de ne pas gêner les déplacements des candidats au pèlerinage en août à la Mecque, donc dans un communiqué lu à la télévision publique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici, aux États-Unis, le président Donald Trump a affirmé n'avoir rien lâché face à Vladimir Poutine lors de leur sommet à Helsinki la semaine dernière, après le tollé provoqué par son attitude jugée trop conciliante avec le président russe. Quand vous entendez les fake news critiquer ma rencontre avec le président Poutine et tout ce que j'ai lâché, souvenez-vous, je n'ai rien lâché, nous avons juste parlé des bénéfices à venir pour nos deux pays, a assuré M. Trump sur Twitter. Lors de la conférence de presse qui avait suivi leur rencontre en Finlande lundi dernier, le locataire de la Maison-Blanche avait semblé exonérer la Russie des accusations d'ingérence dans l'élection qu'il a portée au pouvoir en 2016, mettant en doute ainsi les évaluations des services de renseignement américains. En Syrie, des centaines de casques blancs sont toujours bloqués dans le sud du pays au lendemain d'évacuations orchestrées par Israël, ont indiqué 2 de ces secouristes qui s'inquiètent du sort de leur régime, que le régime pourrait leur réserver. Israël a annoncé hier l'évacuation vers la Jordanie de centaines de casques blancs et des membres de leur famille lors d'une opération exécutée dans le plus grand secret à la demande de pays occidentaux, prêts à accueillir ces secouristes devenus mondialement célèbres pour leurs opérations dans les zones rebelles. Au total, 422 personnes évacuées dans la nuit de samedi à dimanche sont arrivées en Jordanie. À terme, elles doivent être accueillies en Grande-Bretagne, en Allemagne, au Canada ou en France. C'est ici que s'arrête ce bulletin d'information. Yacouba Ouédraogo vous l'a présenté. Merci de m'avoir suivi. Je vous reviens dans 55 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
to Business English. Bienvenue à notre émission consacrée à l'anglais commercial aux États-Unis. Dans ce programme, vous participerez à des voyages d'affaires, à des conversations téléphoniques, à l'échange de messages e-mail et à des interviews. Au micro, Michel Joseph. Dans quelques instants, nous allons entendre une conversation entre Kathy et Max, qui parlent de leur invité, Pat Miller. Who is our guest today? Qui est notre invité aujourd'hui? Guest, invité. Max et Kathy sont des collègues à la radio, ils font des interviews. La première chose que Max va dire quand il commence à travailler, c'est « Hi, what's up? »
« Hi, Kathy, what's up? »
« Salut, quoi de neuf? » Une expression passe-partout, très américaine, qui ne suscite aucune réponse spécifique. Pas du tout ce qu'on dirait lors d'une rencontre formelle, mais tout à fait acceptable entre collègues de longue date. « Hi, what's up? » Une réponse toute simple, « Not much. » Pas grand-chose.
Hi, Kathy. What's up?
Not much.
Who's our guest today?
Today, Pat Miller is back with us.
Autre phrase. She's a college student, isn't she? Elle est étudiante, n'est-ce pas?
She's a college student, isn't she?
College signifie ici université, pas collège. Max est presque sûr que Pat Miller est étudiante, mais il a besoin d'une confirmation, d'où la question à la fin de la phrase, « Isn't she? »
She's a college student, isn't she?
Puisque la question ne demande qu'une confirmation, Kathy va y répondre de cette manière. « That's right. »
« That's right. »
C'est juste. C'est correct.
« She's a college student, isn't she? »
« That's right. She goes to American University. »
Nous allons aussi parler de l'heure. En anglais, on ajoute le terme « o'clock » qui pourrait se traduire par « à l'horloge ». L'heure se traduit par « hour » à ne pas confondre avec « o'clock ». On dit « 10 o'clock », 10 heures, ce qui n'est pas la même chose que « 10 hours » qui veut dire « une durée de 10 heures ». Écoutez et répétez à haute voix.
Listen and repeat. 1 o'clock.
2 o'clock.
3 o'clock.
4 o'clock.
5 o'clock.
6 o'clock.
7 o'clock.
8 o'clock.
9 o'clock.
10 o'clock.
11 o'clock.
12 o'clock.
Pendant cette interview que vont faire Kathy et Max avec Pat Miller, l'étudiante, nous allons découvrir qu'elle étudie l'art dramatique, qu'elle veut devenir actrice, donc elle se rend au théâtre régulièrement, à Washington et aussi à New York, pour voir des spectacles à Broadway. Broadway shows. Pour y aller, elle prend le train.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest today is Pat Miller. Hi, Pat. You're a college student.
That's right. I go to American University.
What are you studying?
I'm studying drama.
Do you go to many plays?
Yes, I do. I see a lot of plays here in Washington. And sometimes my friend Sandy and I go to New York to see Broadway shows.
Nous allons donc découvrir les mots utilisés pour les horaires des trains. The train leaves at 6 o'clock. Le train quitte à 6 heures. Les deux verbes à retenir ici, to leave, quitter, to arrive, arriver. It arrives in New York at 11. It est le pronom qui remplace train. Quand vous utilisez des moyens de transport, vous allez utiliser l'expression to go by, to go by car, to go by train, to go by plane, by bus. Ici, Pat Miller répond à Kathy et Max en disant we go by train.
We go by train.
Oui, nous. Elle parle d'elle et son amie Sandy. Écoutez la conversation qui suit.
New York? How do you get there?
We go by train. We go and come back the same day.
Really?
Yes, it's not a long trip.
When do the trains leave?
The first train to New York leaves at 6 o'clock in the morning.
That's very early.
Yes, it is. We usually take the 7 o'clock train.
When does it arrive in New York?
It arrives in New York at 11. It takes about 4 hours.
Quand on voyage, on a besoin de savoir quelle heure il est. Et si on n'a pas de montre, on peut demander, what time is it? Quelle heure est-il? Écoutez et répétez. What time is it? It is 2 o'clock. En contraction, it's 2 o'clock.
Listen and repeat.
2 o'clock. What time is it? It's 2 o'clock. 2:15. What time is it? It's 2:15. 2:30. What time is it? It's 2:30. 2:45. What time is it? It's 2:45.
Et c'est tout pour cette leçon de Business English, l'anglais commercial. That's it for today. Until next time, à la prochaine fois. English USA vous présente African Voices in Conversation. Des conversations en anglais qui ont attrait à la vie quotidienne au Sénégal. Edward, journaliste américain de passage, va découvrir le métier de coxeur, intermédiaire entre le chauffeur, l'apprenti et le passager de car rapide. Le car rapide est un moyen de transport public populaire où se passent des scènes parfois cocasses. Vous entendrez la conversation entre Ndiogou, le coxeur, et le journaliste Edward. Vous répondrez vrai ou faux, true or false, aux deux phrases que vous allez entendre. 1. Ndiogou est coxeur depuis plus de 10 ans. 2. Ndiogou précisera à Edward combien d'argent il gagne comme coxeur. Vous répondrez ensuite à ces trois questions. 1. Qu'est-ce qu'un coxeur? 2. Depuis quand Ndiogou est-il coxeur? 3. Quelles tâches effectue Ndiogou? Vous entendrez et apprendrez des questions appelées WH questions, essentielles en communication. Nous allons écouter ce couple.
Are you ready?
Yeah, I'm ready, man.
Okay then, what's your name?
My name is Ndiogou. They call me Ndiogou Marley in the business.
Like Bob Marley?
You say it, man. See my drink glass? I'm a Rasta man and a big fan of Bob Marley.
I see. Tell me, Ndiogou, what's a coxeur?
Someone who coxes a car rapid or a set places.
What's a set places?
It's the smaller vehicle or bush taxi. You know the ones where you get very comfortable with the other riders?
Ah, yes. I know them well. So, how long have you been a coxeur?
For 15 years. I am a senior coxeur now. Respect, man.
So, what's the job? What do you do as a coxeur?
Coxing, of course. You could say that I am the co-pilot or co-captain. I look out for the driver and make sure that everything goes fine.
Meaning?
Well, I bring in the clients, pay the duty to the policeman, and take care of the excess luggage or animals.
How important is your job?
Very. I am in charge of the overall planning, the management, and the administration, man. Coxing is a matter of high logistics.
How much money do you make?
It's uncountable, but we don't talk money here, man.
Why is that?
You know, man, money likes no eye, no tongue.
Nous avons entendu Edward s'entretenir avec Ndiogu Marley. L'énoncé 1 est vrai. Ndiogu est coxeur depuis plus de 10 ans. L'énoncé 2 est faux. Ndiogu précisera à Edward combien d'argent il gagne comme coxeur. Voilà les réponses aux questions. 1. Qu'est-ce qu'un coxeur pour Ndiogu? Quelqu'un qui coxe un véhicule. 2. Depuis quand Ndiogu est-il coxeur? Depuis 15 ans maintenant. 3. Quel genre de tâches Ndiogu dit-il effectuer? Des tâches de planning, de gestion et d'administration. Écoutez la question avec what.
What's your name?
Le mot what correspond à la question que ou qu'est-ce que en français. Écoutez et répétez aussi ces questions.
What's a coxeur? So what's the job?
Nous avons aussi entendu des questions avec how. Par exemple,
how long have you been a coxeur?
How suivi de long exprime la durée d'une action. Écoutez et répétez ces questions.
How important is your job? How much money do you make?
How suivi de much exprime une quantité indéterminée. Nous avons découvert un métier pas comme les autres, celui de coxeur, et un coxeur pas comme les autres, Ndiogu Marley. Vous avez répondu vrai ou faux à des énoncés et ensuite répondu à des questions. Vous avez enfin appris à poser des questions essentielles avec what et avec how. Pour plus de renseignements au sujet des cours d'anglais, Learning English, allez au site internet suivant à americanenglish.state.gov ou à voalearningenglish.com. Aujourd'hui, Martin Lerner est allé visiter une ferme. Une ferme à élevage de bétail. En anglais, a cattle farm. Cattle, c'est le bétail, ou bien c'est pour les vaches et les bœufs, ou bien cattle ranch. Dans l'ouest des États-Unis. In the west. Martin parle avec le propriétaire du ranch et des cowboys. Martin is talking with the owner of the ranch and the cowboys. Il parle de ce qui se passait auparavant dans l'Ouest. He's talking about what used to happen in the West. Au cours de cette leçon, vous allez apprendre à décrire des événements qui se sont déroulés dans le passé. English USA est diffusé en direct de Washington. Au micro, Michel Joseph. Au cours de cette leçon, vous allez donc apprendre à décrire un événement qui s'est déroulé au passé. Vous avez sans doute déjà raconté un événement ou une histoire. Aujourd'hui, vous allez essayer de vous organiser les idées dans la tête à l'aide de quelques principes très utiles. Vous saurez comment les présenter clairement. I think Americans love cowboys. Je pense que les Américains adorent les cowboys. Écoutons leur conversation ou quelques éléments de cette conversation. Do you know about the Old West? Connaissez-vous un peu l'histoire de l'Ouest? Du Far West, c'est-à-dire? Yes, my family was a part of it. Oui, ma famille a vécu le Far West dans le temps. Of course, the Indians were here first. Bien sûr, les Indiens étaient là avant tout le monde. The first white men were hunters and trappers. Les premiers hommes blancs étaient des chasseurs, des trappeurs ou des piégeurs.
« I think Americans love cowboys.
That's good. I'm a cowboy.
Are you? But you own the ranch, don't you, Mr. Graff?
I'm a rancher. I'm a businessman, too. But I like being on my horse best. I like what cowboys do.
Are there still cowboys?
Yes, but they aren't like the cowboys in the Old West.
Do you know about the Old West?
Yes, my family was a part of it.
Tell me about it.
Of course. The Indians were here first. The first white men were the hunters and trappers. There weren't many. They were called mountain men. They weren't settlers. They weren't cattlemen and farmers.
When were the mountain men?
Sometime between 1820 and 1840. A lot of people moved west in 1849 and later. That was when gold was discovered in California.
None of those men were cowboys.
The cowboys came a little later. Some came after the Civil War in the 1860s and 70s.
Why?
The first railroad was finished in 1869.
You mean the first railroad all the way across America?
That's when there was a need for cowboys.
Please explain.
The West was a good place to raise cattle, but all the people lived in the East.
So the cattle were raised here in the West, then they were sent to the East on the new railroad.
Right. The cowboys took care of the cattle. Then they took them to the railroad. The cattle were miles and miles away from the railroad.
That's when the cowboys drove the cattle for days.
Yes, it was. The Old West was about cows and cowboys.
And here we are.
That's what ranching is about today, cows.
Tell me about the cattle drives in the old days.
Many men came west after the Civil War. They were poor. There were no jobs, no work.
Were there jobs here?
No, but there were cattle. All they needed to work was a horse. A few men got together, they rounded up the cattle, then they drove them to the railroad.
And they sold the cattle there?
Right. Some of them got rich.
But some of them didn't. What happened to them?
Many of them went back and tried again. They got together with some more men. They rounded up more cattle. They drove them to the railroad. They sold them.
It was a hard life.
It was a great life.
I want to hear more.
En général, lorsqu'on parle d'un événement qui s'est déroulé dans le passé, on commence par introduire les personnages principaux. Par exemple, ici, Martin Lerner parle avec Laurent Cher et il commence à parler du passé, du Far West. Et il parle tout d'abord des Indiens, ensuite des chasseurs, the hunters and the trappers, et ensuite il parle de ceux qui se sont installés là-bas, the settlers, et ainsi de suite. Ensuite, on raconte les actions qui se sont déroulées dans le cadre de cet événement, dans un ordre chronologique. Et vers la fin de l'histoire, on fait des observations personnelles. Écoutez maintenant Mr. Grant, qui nous explique ce qui se déroulait entre les années 1820 et 1870. Écoutez bien.
The mountain men came sometime between 1820 and 1840. A lot of people moved west in 1849. The cowboys came a little later. Some came after the Civil War in the 1860s and 70s.
On classe les événements du passé dans un ordre chronologique. Répondez aux questions de Martin en citant les dates spécifiques qui correspondent à chacune de vos réponses. Ce seront des questions très simples. Par exemple, il va vous demander « When were you born ?» C'est le commencement de votre vie. Vous répondez « When were you born ?» Quand êtes-vous né ? Ensuite, la prochaine question, ordre chronologique, bien sûr. « When did you start school ?» Quand est-ce que vous avez commencé l'école ? Pour ceux d'entre vous qui ont eu l'occasion ou la possibilité de le faire. Autre question, « When did you first get a job ?» Quand est-ce que vous avez obtenu votre premier travail, votre premier boulot ? Essayez de répondre avec Martin Lerner.
« When were you born ?» When did you start school? When did you first get a job?
Nous allons retrouver Martin qui est allé visiter une ferme, ou plutôt un ranch, a cattle ranch. Au cours de cette leçon, vous allez apprendre à raconter dans un ordre chronologique les événements qui ont marqué votre vie, votre propre vie. Voyons ces événements qui se déroulent dans le passé. Il est important que l'action de cet événement que vous racontez soit compréhensible et facile à suivre, et que votre présentation soit logique. Martin parle avec le propriétaire du ranch de bétail. Martin is talking to the owner of the cattle ranch about the Old West. Listen carefully. Écoutez bien.
Modern cowboys don't do the same work, do they, Mr. Grant?
No, no. But you see, they spend their days on horseback.
But they don't have to drive the cattle to the railroad anymore.
No, it's hard work, but not as hard as it was in the old days.
Many people think that cowboys were heroes.
I think so too, Martin. Can you imagine how difficult it was? It was just a few men against great difficulty. Often it was the cowboy alone with his horse, especially at night.
What were some of the difficulties?
The weather. It was always too hot or too cold. It was windy or wet.
And they spent day after day on their horses.
That's right. Are you getting tired?
No, I'm fine.
The food was terrible. There were no towns.
Why do we imagine it was a wonderful life?
Because the cowboy was independent. There were wonderful stories about them, too.
Tell me your story, Mr. Grant. I want to hear the history of your family.
Sure. My great-grandfather went to Oklahoma. He was a very young man, maybe only 17 or 18. He took a homestead of 160 acres.
Did he have any money? He was so young.
He didn't have any money, but he had a wife.
How did they live?
We don't know. They didn't live very long, but they had five children.
What happened to the children?
One went here, another went there. My grandmother went to live in Colorado with an aunt.
When was this?
This was in the 1890s. This was the best time in the Old West.
What happened to her in Colorado?
There were very few towns, but her aunt and uncle lived in town. She became a school teacher. Then she married a cowboy.
Then what happened?
Her aunt and uncle were very unhappy.
Why?
They didn't like cowboys. People in the East and in Europe liked cowboys, but many people in the West didn't like them. Most of them were poor. They were dirty.
Martin raconte dans un ordre chronologique les événements les plus importants de la vie de Mr. Grant. C'est à vous maintenant de recréer chronologiquement quelques événements importants de votre vie personnelle. Essayez de répondre aux questions de Martin en citant des dates spécifiques qui correspondent à chaque événement. Je ne sais pas si vous les connaissez vous-même. Par exemple, il va vous demander « When did you first walk ?» Quand est-ce que vous avez pris vos premiers pas ? Moi, je ne sais pas personnellement. Je sais que mon petit-fils, qui a maintenant 7 mois, a déjà commencé à marcher. « My son started walking at 7 months. » À vous de répondre pour vous. When did you first speak? Quand est-ce que vous avez parlé pour la première fois? When did you first read? Quand est-ce que vous avez lu pour la première fois? Allez-y, répondez aux questions de Martin Lerner.
When did you first walk? When did you first speak? When did you first read? The Old West wasn't so long ago.
It wasn't long ago to me. My grandfather and grandmother lived in it. Sometimes I still live in it.
Vous avez pu voyager un peu dans le temps. Mettez-vous avec quelques-uns de vos amis et en suivant les exemples que nous avons cités aujourd'hui, entraînez-vous en racontant des histoires personnelles ou des événements qui ont marqué ou changé votre vie. Vos amis choisiront une de ces histoires et essaieront à leur tour de la raconter, en anglais bien sûr, dans un ordre chronologique. Have a great practice and until next time, goodbye.